êtes sur Radio Campus Pau.
Retrouvez Campus Zoom,
l'émission qui fait le zoom sur le local. Bonjour et bienvenue, c'est Campus Zoom pour Radio Campus Pau. On se retrouve aujourd'hui avec Ernestine
et Laura au programme de notre émission, le salon littéraire palois Les idées mènent le monde. Cette année sur le thème de l'envie de vivre. Pour l'occasion, l'équipe de Campus Zoom s'est rendue au Palais Beaumont ce week-end afin de rencontrer certains des invités présents. La vie culturelle de la ville de Pau est riche en événements. Parmi ces derniers, nous pouvons citer les concerts de l'Orchestre de Pau, Pays de Béarn, ou encore le Carnaval Béarnais. Toutefois, nous allons nous focaliser sur un événement annuel qui attire environ 20 000 visiteurs par an. On parle bien évidemment des idées qui mènent le monde. Les rencontres littéraires Les idées mènent le monde sont organisées par la communauté d'agglomération Pau-Béarn-Pyrénées avec le concours des partenaires. Parmi eux, nous avons l'UNICEF, Pau Tourisme Béarn-Pyrénées, Peugeot Absis, Selectour Béarn Touriste, France Bleu Béarn, Sud-Ouest, La République, L'Éclair, UPPA et l'Idélis. La première édition a eu lieu en 2014 au Palais Beaumont sur le thème du bonheur. Comme vous pouvez le constater, cette rencontre littéraire a un thème différent pour chaque édition. Contrairement au salon Un aller-retour dans le noir, qui, lui, se concentre sur le polar uniquement. Comme mentionné plus tôt, Les idées mènent le monde est un salon littéraire dont l'entrée est 100% gratuite. Autrefois, un salon littéraire était une réunion à date convenue d'hommes et de femmes lettrés, bourgeois ou des nobles attirés vers les belles lettres, la poésie, la littérature, le théâtre et même les arts et les sciences. C'était des rencontres régulières afin de discuter d'actualités de l'époque concernée, philosophie, littérature, journalisme ou des progrès d'un domaine en particulier.
Les idées mènent le monde regroupent ces centres d'intérêt auxquels s'est ajouté le cinéma. Par contre, cette rencontre n'est pas seulement destinée aux gens de la haute société, puisque l'entrée est gratuite et ouverte à tout le monde, peu importe l'âge, la classe sociale, etc. Les thèmes imposés chaque année permettent de cibler des problématiques et enjeux spécifiques et à inviter ceux qui sont les mieux placés pour y répondre. C'est pourquoi, chaque année, des penseurs, scientifiques, écrivains, cinéastes et journalistes sont au rendez-vous. Ils partagent alors leurs réflexions lors de rencontres, débats, conférences et dédicaces. Il est intéressant de noter que l'UPPA est également présente à ce salon. L'événement dure 3 jours, commençant le vendredi soir et se terminant le dimanche, et exceptionnellement cette année, il a commencé le jeudi. Les éditions précédentes avaient eu lieu au centre des congrès Palais Beaumont, mais cette année, le centre culturel Forail de Pau est également devenu un lieu de rencontre. Cette année, le thème de cette 8e édition était « L'envie de vivre ». Afin de débattre et peut-être nous éclairer plus sur le sujet, la ville de Pau a accueilli le cinéaste Claude Lelouch, l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve ou encore l'académicien Éric Orsenna, entre autres.
Comme dit précédemment, le thème pour l'édition 2022 est l'envie de vivre. Parlons un peu plus de ce thème. La guerre fait rage en Ukraine. Une pandémie vient de paralyser la planète et n'est pas totalement contrôlée. La menace d'une catastrophe climatique rôde. L'inflation galopante et les risques de récession inquiètent. Pour couronner le tout, les citoyens s'éloignent chaque jour un peu plus de la politique et font de moins en moins confiance aux élus pour régler les problèmes. À l'écoute des bruits du monde, l'espérance d'un avenir meilleur pourrait sembler déraisonnable. Pour nous, les nouvelles générations, il devient difficile de rester optimiste quant à notre avenir et ce qui pourrait nous arriver quand on voit ce qui se passe autour de nous. Mais comment continuer à avancer et à chercher des solutions si l'on ne trouve pas au fond de nous cette envie de vivre, justement ? Qui pourrait nous pousser à innover et à bâtir un avenir meilleur pour nous et les générations qui suivront.
C'est pour cela que ce thème a été choisi par les organisateurs du salon, pour célébrer cette envie de vivre et surtout trouver des solutions pour la faire perdurer. Se posent alors les questions de l'écologie, de l'environnement, des éléments naturels, mais aussi de l'héritage historique ou même familial. C'est à ces questions que de nombreux invités sont venus répondre cette année autour de conférences sur des sujets très variés. L'équipe de Campus Zoom s'est d'ailleurs rendue sur place pour faire la rencontre de 4 de ses invités qui ont accepté de répondre à nos questions. Tony Estanguet, Bernard Cazeneuve, Éric Orsenna et Elsa Boublil. Commençons par la rencontre avec Tony Estanguet. Originaire de Pau, Tony Estanguet est triple champion d'Europe, triple champion du monde et triple champion olympique du canoë slalom. Ce qui fait de lui le premier athlète français à avoir obtenu 3 médailles d'or au cours des 3 Jeux olympiques différents. Auxquels il a participé bien évidemment. Membre du Comité international olympique de 2013 à 2021, Tony Estanguet est également le vice-président de la Fédération internationale de canoë-kayak depuis 2014. Actuellement très engagé dans le projet Mouvement sportif, Société civile, acteurs publics et privés, il préside le comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris. Tony Estanguet a la forte conviction qu'il faut apporter le sport sur toute la planète, partout. C'est pourquoi il propose un nouveau modèle de jeu pour les rendre plus accessibles au plus grand nombre et permettre à plus de gens de s'épanouir grâce au sport. Pour Tony Estanguet, le sport a un pouvoir unique, capable d'avoir un grand impact sur la vie de chacun d'entre nous. Il partage déjà ce pouvoir et cette passion pour le sport avec ses 3 enfants.
À l'occasion des Idées mènent le monde, Tony Estanguet est venu faire une conférence sur « Vivre et faire vivre les JO ». Il a ainsi partagé sa vision de l'envie de vivre, thème de cette 8e édition de Rencontres littéraires. Après sa conférence, Tony Estanguet a accordé du temps pour dédicacer sa BD « Tony, l'enfant des rivières », dont le premier tome est paru cette année. Cette BD raconte son incroyable parcours et aventure humaine, où tout commence en 1978, à Pau, au pied des Pyrénées. Après une longue séance de dédicace, Tony Estanguet nous a tout de même accordé du temps pour une interview.
Dites-moi.
On va faire très rapidement.
Oui, s'il vous plaît. Ouais.
Je suis désolée, hein, vraiment. Donc on enregistre. Ok, alors du coup, on travaille pour Radio Campus, donc la radio étudiante de la fac de Pau. On a fait récemment une émission justement sur les étudiants sportifs de haut niveau.
Oui.
Et vous avez fait des études après avoir obtenu des titres olympiques. Et comment est-ce que vous avez fait pour concilier justement ces deux mondes?
Ouais, j'ai essayé de trouver toujours un équilibre entre effectivement la pratique du sport qui était ma passion et mon moteur et qui m'a permis d'avoir cette énergie. Et je savais aussi que dans mon sport qui n'était pas professionnel, j'étais obligé de préparer l'après, que le jour où s'arrêterait ma carrière sportive, il faudrait bien trouver un travail. Et donc, voilà, j'ai organisé mon temps avec des temps forts, des temps faibles, où il y avait de temps en temps, à l'approche des compétitions très importantes, une priorité donnée au sport. Et puis à l'inverse, sur des périodes, notamment l'automne, l'hiver, où il y a moins de compétitions dans mon sport, où là, ben, j'essayais de rattraper des examens que j'avais ratés, par exemple, au printemps. Et donc, j'ai réussi, bon an, mal an, pendant toute ma carrière, à concilier le sport et les études.
Le thème de ce salon est l'envie de vivre. Qu'est-ce qui vous motive chaque jour ?
L'envie de vivre, pour moi, ça me parle parce que c'est vrai que j'ai toujours eu l'impression dans ma vie de fonctionner à l'envie d'avancer, l'envie d'apprendre, l'envie de réussir, l'envie de me dépasser, de m'accrocher, de résister à toutes les difficultés. Donc cette envie, elle m'a permis justement d'être ce que je suis aujourd'hui. Donc l'envie de vivre, oui, je crois qu'il faut voir, il faut vivre la vie à fond la caisse et croquer la vie. Et quelque part, l'envie, c'est un moteur important qui doit aussi se travailler, entre guillemets. Et c'est pas automatique d'avoir envie des choses. Il faut aussi être un peu curieux, aller vers les autres et poser des questions et s'intéresser à la réussite des autres pour voir aussi est-ce qu'il y a des choses à apprendre et à retirer des autres. Donc, pour moi, ça m'a beaucoup parlé. Ouais.
Vous êtes donc le thème donc envie de vivre, mais dans quel monde? Et du coup, vu que vous êtes aujourd'hui à l'organisation des Jeux Olympiques de Paris, justement, comment concilier parce que bon, la question de l'écologie est très importante à l'heure actuelle, parce que si on veut vivre, il faut vivre dans un monde en vie. Donc comment concilier l'écologie et les Jeux Olympiques?
Ouais, c'est un bon point. Je pense que c'est notre responsabilité à tous aujourd'hui de réussir à continuer à avancer dans la vie tout en respectant l'environnement. Nous, notre objectif, c'est de réussir de grands Jeux olympiques et paralympiques tout en réduisant de moitié les émissions carbone. C'est ça notre défi, notre challenge. Je veux démontrer que c'est possible d'être très ambitieux, très spectaculaire, tout en étant très responsable. On peut se faire plaisir dans la vie, on peut se régaler, partager des très bons moments très populaires, tout en étant exemplaire. Et c'est ça le défi qui est le nôtre. On veut réduire de moitié par rapport aux dernières éditions des Jeux les émissions carbone, en étant exemplaire sur les constructions, sur la consommation, sur l'énergie qu'on va utiliser, sur les déplacements, sur la restauration, tous ces marqueurs du quotidien. On doit essayer de trouver des solutions pour être moins impactant sur l'environnement et je pense que c'est possible.
Une toute dernière question.
Pensez-vous que nous, la nouvelle génération, nous puissions rester optimistes quant à notre avenir, malgré tout ce qui se passe dans le monde actuellement?
Oui, je pense qu'il faut être optimiste. Il y a toujours des gens qui voient le verre à moitié plein. Je vous encourage à rester optimiste. J'ai bien conscience que c'est pas évident parce que voilà, tout nous pousse dans notre quotidien à voir un peu le négatif, les polémiques, les problèmes. Je pense que chacun a ce pouvoir en lui de s'accrocher à ce qui est, à ce qui est porteur, à ce qui nous fait plaisir, à ce qui nous donne envie d'avancer, tout en travaillant et en étant très exigeant. Il n'est pas question d'abandonner cette valeur-là. Mais moi, je suis très optimiste pour le futur, parce que je crois que le futur dépend de nous et de chacun de nous. Donc si on s'engage tous vers un meilleur futur, je pense que le futur sera beau.
Merci beaucoup.
Merci.
On va parler maintenant de Bernard Cazeneuve. Bernard Cazeneuve est homme d'État français, membre du Parti Socialiste de 1987 à 2020. Il est Premier ministre du 6 décembre 2016 au 15 mai 2017, sous la présidence de François Hollande. Lorsque ce dernier était élu président de la République, il nomme Jean-Marc Ayrault Premier ministre et Bernard Cazeneuve se trouve ministre délégué aux Affaires européennes. L'année suivante, il devient ministre délégué au budget suite à la démission de Jérôme Cahuzac, ministre de l'Intérieur, dans les deux gouvernements de Manuel Valls. Il est confronté à une vague inédite de terrorisme islamiste entre 2015 et 2016. À la fin de l'année 2016, il remplace Manuel Valls comme Premier ministre. Il prend ses fonctions dans un contexte de campagne pour l'élection présidentielle de 2017 et doit notamment faire face à un mouvement social en Guyane. Il démissionne à la suite de l'élection remportée par Emmanuel Macron et rejoint comme associé le cabinet d'avocats Auguste Debouzy. En 2022, en désaccord avec l'alliance conclue entre le PS et la LFI pour les élections législatives à venir, il quitte le Parti Socialiste. Sa carrière politique démarre bien avant ses postes dans les différents ministères, puisqu'il dirige la Fédération du mouvement des jeunes radicaux de gauche de Gironde, alors qu'il fait ses études à l'IEP de Bordeaux. Puis, il devient député dans la Manche jusqu'à devenir ministre. Ses fonctions lui vaudront différentes distinctions, dont la Légion d'honneur en 2017, ou encore la décoration de grand officier de l'Ordre du Mérite de la République italienne en 2012. Après ses mandats, Bernard Cazeneuve décide de publier ses mémoires au gouvernement de François Hollande en 3 tomes. 115 jours à Matignon, sorti en 2017, à l'épreuve de la violence, Beauvau 2014-2015, sorti en 2019, et enfin Le sens de notre nation, sorti en 2022. Le premier retrace son quotidien de Premier ministre, le titre soulignant son court passage à Matignon, et les deux autres retracent son parcours en tant que ministre de l'Intérieur, le dernier se focalisant plus particulièrement sur les divers attentats qui ont touché la France, le 13 novembre 2015, le 14 juillet 2016 à Nice, mais aussi ceux qui ont fait moins de victimes et dont on a moins parlé.
Lors de sa conférence aux Idées mènent le monde, il parle justement de ce dernier ouvrage, qui est en réalité un entretien avec le journaliste François Bazin. Il retrace alors la fin de son mandat de ministre de l'Intérieur et tous les éléments internes face à la gestion de cette montée du terrorisme. Il y parle également d'espoir et d'une volonté de voir le pays se relever après avoir été si durement atteint. Il revient dessus dans sa conférence et illustre son envie d'État, une envie de vivre en citoyens rassemblés et unis pour une cause qui nous dépasse tous.
L'événement dont vous parlez, moi j'avais 14 ans.
Et oui, c'est ça.
Donc j'ai souvenir bien sûr de ces événements, mais pas forcément de cette façon, et c'est intéressant de les découvrir.
Allons-y.
Donc vous êtes venu ici pour parler de votre livre, donc Le sens de la nation, qui est paru en janvier cette année. Pourquoi avoir fait le choix de François Bazin ?
Parce que François Bazin est un journaliste exigeant, c'est un journaliste qui n'est pas complaisant, c'est un journaliste dont je savais qu'il jouerait le jeu, c'est-à-dire qu'il me poserait des questions qui paraissait importante compte tenu des événements qu'il avait vécu, et pour toutes ces raisons j'ai choisi un journaliste dont je pensais qu'il était un vrai journaliste, pas un intervieweur de complaisance.
Est-ce que vous avez romancé certains passages, je pense notamment au moment où vous avez parlé des attentats quelques heures avant le 13 novembre, est-ce que ça s'est réellement passé comme cela, ou est-ce qu'il y a certains passages qui sont romancés justement ?
Non, rien n'est romancé, ça. On ne peut pas se permettre dans un livre de souvenirs de romancer des passages, de travestir la réalité. Non, tout ce qui est dans ce livre correspond très exactement et très précisément à ce que j'ai vécu et se nourrit des carnets que j'ai pu rédiger à l'époque.
D'accord. Donc vous avez été engagé très tôt en politique, dès vos études supérieures. Est-ce que, donc nous sommes une radio étudiante, donc est-ce que vous pensez que c'est très important de s'engager dès qu'on peut s'engager en fait, et si oui, comment le faire ?
Je pense que c'est important de s'engager, pas nécessairement en politique, de s'engager pour la vie associative, pour des organisations gouvernementales, pour des causes qu'on croit justes, oui, parce que ne peut pas vivre que pour soi-même. Et il est important, à certains moments de la vie, de trouver les moyens de se dépasser et de trouver dans l'action collective un moyen de donner un peu de son temps pour les autres. Je crois que c'est important de ne pas vivre que pour soi, oui.
Donc le thème du salon de cette année, c'est donc l'envie de vivre. Donc pendant vos mandats en tant que ministre de l'Intérieur, vous avez dû faire face à des vagues de terrorisme. Et du coup, comment garder justement cette envie de vivre après avoir été témoin de choses aussi horribles et violentes ?
Vous savez, la souffrance que les autres subissent, et notamment à l'occasion des attentats, la barbarie qui les frappe, les familles endeuillées, paradoxalement montre le trésor qu'est la vie. Et notamment la vie de famille, la vie avec ce qu'on aime. Et donc le fait d'avoir vu tant d'êtres arrachés à l'amour de leurs parents, de leurs proches, m'a rendu plus sensible encore à mon entourage et à ceux que j'aimais, paradoxalement.
Oui, comme vous faites référence notamment à la mère et même à la sœur et à la nièce du père Hamel que vous avez rencontré et qui justement...
Oui. Bien sûr, par exemple, d'avoir vu à la fois la dignité et la souffrance de ces familles si durement frappées m'a beaucoup humanisé, je crois, paradoxalement.
Vous avez quitté donc le PS il y a peu de temps. Dans le livre, François Bazin emploie une expression que je trouve vraiment très intéressante. Vous êtes un spectateur engagé ou, si l'on préfère, un acteur désengagé en parlant de politique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette citation ?
C'est-à-dire que j'ai pris du recul, nécessairement, compte tenu de ce que j'ai pu voir de certains comportements politiques. J'ai éprouvé le besoin, à un moment donné, de m'en éloigner. Mais je suis demeuré un spectateur passionné par son pays. Et dès lors que je parle pour dire ce que je crois, on peut considérer que je suis un acteur, mais n'ayant pas de responsabilité gouvernementale ou élective, certains peuvent considérer que je suis un acteur désengagé ou un spectateur engagé, selon l'angle à partir duquel on regarde ce que j'essaie de faire.
Et enfin, une dernière question. Alors, est-ce que vous pensez qu'on peut rester optimiste, nous, la nouvelle génération, face à tous les dysfonctionnements actuels que l'on peut souligner dans notre monde ?
Je pense que c'est plus difficile pour votre génération, pour des raisons que j'ai indiquées pendant la conférence. C'est-à-dire que nous nous sommes battus pour que la vie soit meilleure, vous vous battez pour que la vie humaine soit possible. C'est un combat d'une toute autre nature, qui est un combat tellurique, immense, considérable, que nous n'avons pas eu à mener. Mais en même temps, ce combat est tellement immense et il est tellement essentiel et vital que je suis convaincu qu'on peut trouver dans la période la force collective pour pouvoir surmonter les défis et parvenir à faire en sorte que non seulement la vie soit possible, mais qu'elle soit plus belle.
Très bien, merci beaucoup.
Parlons maintenant de Éric Orsenna. Éric Arnoux, connu sous le nom de plume Éric Orsenna, est un célèbre écrivain français et membre de l'Académie française. À 17 ans, Éric Orsenna était déjà assez engagé politiquement et pendant ses études, il devient membre de la conférence Olivain. Après des études de philosophie et sciences politiques, il se tourne finalement vers l'économie où qu'il étudiera à Londres. De retour en France, il publie son premier roman et devient par la même occasion docteur d'État. Éric Orsenna a souvent expliqué qu'il souhaitait avoir un autre métier que l'écriture. Selon lui, il faut être libre de donner le temps qu'il faut au livre. Ce dernier doit être lieu de liberté. C'est pourquoi il ne consacre que 2 heures par jour à l'écriture. C'est pourquoi il était impensable qu'il puisse vivre seulement de sa plume. Éric Orsenna a occupé plusieurs postes dans cette optique, que ce soit dans la politique ou autre. Avoir plusieurs métiers, pouvoir également voyager dans le monde, lui permet de se renseigner sur l'univers et nourrir son écriture. Sa vie politique et culturelle ne l'a pas empêché d'écrire tout de même 7 romans, dont l'exposition coloniale pour lequel il a reçu le prix Goncourt et le prix Goncourt des lycéens en 1988. Du côté de la politique, il devient conseiller au ministère de la Coopération auprès de Jean-Pierre Cotte, avant de devenir conseiller culturel et plume de François Mitterrand de 1983 à 1984, puis d'être nommé maître des requêtes au Conseil d'État en décembre 1985 et enfin conseiller d'État en juillet 2000 avant d'être en disponibilité de cette institution puis à la retraite. Le 28 mai 1998, il est élu à l'Académie française au fauteuil de Jacques-Yves Cousteau, 17e fauteuil. À part l'importance que l'Académie française détient pour la langue française, elle représente également un trésor de compétences et d'amitié pour Éric Orsenna.
Toujours très engagé politiquement et pour la culture, Éric Orsenna s'est rendu à Pau en tant qu'invité de la rencontre littéraire « Les idées mènent le monde ». Dans le cadre de cette dernière, il a donné une conférence sur l'eau, vie de la planète, suivie d'une séance de dédicace dans laquelle on a pu le rencontrer.
Très bien, donc bonjour.
Bonjour.
Alors, pour commencer, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Vous avez dit que voyager nourrissait vos romans et bouscule votre inspiration et votre sensibilité. Selon vous, est-ce qu'il faut voyager et vivre des expériences pour pouvoir écrire, ou est-ce que c'est l'écriture qui amène à cette envie?
C'est les deux. Dans les deux sens, c'est les deux. Parce qu'il y a des exemples. Ce qu'il y a de bien avec l'écriture, c'est qu'on peut tout faire. Et qu'aucun chemin n'est tracé. Et que j'ai l'impression que l'écriture, c'est exactement comme la navigation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de chemin sur la mer, il faut inventer son chemin. Donc on peut faire d'un. Vous avez quelqu'un comme Proust qui a été très très mondain pendant un moment donné, mais sans jamais voyager, mais juste de fête en fête. Et puis il a fait son œuvre immense. Et puis d'autres qui ont voyagé partout, comme Sandrars, comme Kessel, etc. Donc tout est possible, c'est le vertige de la liberté.
Très bien. Le thème de ce salon, c'est l'envie de vivre. Est-ce que pour vous, cela aboutit à l'envie de créer, ou est-ce que c'est l'envie de créer qui vous donne envie de vivre?
Encore une fois, il n'y a pas lien, c'est la poule et l'œuf. C'est-à-dire que plus je crée, plus j'ai envie de vivre, et plus j'ai envie de vivre, plus j'ai envie de créer, et que la création fait partie de la vie.
Alors, donc, j'ai lu votre livre « Les mots immigrés », que
oui.
J'ai personnellement beaucoup aimé en tant qu'étudiant, ancienne étudiante de lettres.
Ah ben voilà.
Et donc j'ai beaucoup aimé cette idée de grève, et grâce à lui on prend conscience de l'importance du multiculturalisme dans notre langue et plus généralement dans notre société. D'où elle vous est venue cette idée?
Moi, le sentiment très clair, c'est que j'ai une partie de ma famille qui est cubaine, j'ai des amis africains, j'ai tout ça, et j'ai vu tout ce que ces mots étrangers avaient apporté à la langue française. Vous savez, dit la vérité qui est difficile à entendre par certains, mais il y a beaucoup plus de mots d'origine arabe dans la langue française que de mots d'origine gauloise, bien plus. Donc c'est comme ça, tout ça s'est mélangé, et puis il y a quand même une unité qui s'est formée de toutes ces diversités.
D'entre votre conférence ici, vous allez parler de l'eau, élément indispensable à notre survie,
ouais.
Bien sûr. Pourquoi avoir choisi cet élément?
Parce que c'est la matière première absolument essentielle. Nous sommes constitués de 70% d'eau, nous tous, d'abord. Et puis ensuite, je suis passé de l'eau au fleuve, parce que les fleuves, c'est des êtres humains, et on peut aussi bien adopter une rivière qu'on adopte un animal.
Et enfin, une dernière question. Est-ce que vous pensez que l'on peut rester optimiste, nous, la nouvelle génération, quant à notre avenir, quand on voit tous les dysfonctionnements de notre monde?
Oui, mais aussi, vous pouvez aussi vous bouger un peu. Parce que quand je vois qu'à la suite des études de médecine, le choix des étudiants, après ces études coûteuses et importantes, c'est de choisir la chirurgie esthétique, donc je veux dire, il n'y a pas que nous, les anciens, qui sommes responsables. Et que les autres, ils pourraient être un peu moins égoïstes et penser un peu moins à leur gueule.
Très bien.
Voilà.
Merci beaucoup.
De rien.
Parlons maintenant d'Elsa Boublil. Fille d'un père tunisien et d'une mère hollandaise, Elsa grandit en région parisienne. Après avoir effectué de multiples remplacements à France Inter, elle anime à partir de 2010 l'émission dominicale Summertime, consacrée au jazz. À partir de la rentrée 2015, elle anime l'émission Vous avez dit classique, consacrée à la musique classique et au jazz. Mais à la fin de la saison radiophonique, elle est à son tour remplacée par Vincent Jossé et rejoint alors France Musique pour réanimer l'émission d'entretien Musique et moi. En 2016, elle devient marraine de l'Orchestre des lycéens français du monde. À la suite des élections municipales de 2020, elle rejoint le cabinet d'Anne Hidalgo en tant que conseillère culture. En parallèle de sa carrière de journaliste, elle publie également des livres sur son histoire. C'est comme ça que sort en 2015 le livre « Body Blues » afin d'exorciser les abus sexuels dont elle a été victime dans son enfance. Elle parle de son viol à l'âge de 6 ans par le rabbin de sa famille, qui l'initiait au Talmud, puis entre 7 et 12 ans par le professeur de musique, qui lui enseignait la clarinette. Par ces traumatismes, naît la question du secret. Comment parler de ces traumatismes? Comment être cru? Comment se construire malgré cela? Et cette thématique, Elsa la reprend quelques années plus tard lorsqu'elle publie « Le temps d'apprendre à vivre », un roman au titre lourd de sens sur l'histoire d'une famille juive tunisienne, marquée par le plus grand des secrets transmis par plusieurs générations de femmes. Ce livre, elle le dédie à sa tante.
C'est justement de lui dont elle parle dans sa conférence, le fait de vivre, d'apprendre à vivre malgré les secrets, d'apprendre à devenir une femme et à s'épanouir et surtout s'affranchir en tant que telle. Elsa Boublil a accepté de répondre à quelques-unes de nos questions la concernant et concernant son œuvre. Nous vous laissons avec cela.
Du coup, déjà bonjour. Alors, première question, pourquoi avoir choisi de devenir journaliste et plus particulièrement dans la musique et dans la culture?
Alors, bonjour. Journaliste, en fait, c'est... J'avais envie de transmettre ma passion de la musique tout simplement dans la façon la plus démocratique possible. En fait, j'étais obsédée par la transmission, comment tout le monde peut... une envie folle de partager mes goûts, mais sans didactisme, mais avec la gouaille et l'appétit. Et je me suis dit, il n'y a rien de mieux que la radio pour le faire. Voilà. C'était vraiment... C'était pas journaliste, c'était... je voulais être à France Inter. Voilà, je voulais à France Inter pouvoir transmettre au plus grand nombre ma passion pour la musique. C'était. Et donc même le journalisme en tant que tel, quand j'ai commencé à voir les concours pour les écoles de journalisme, je me suis dit, mais... Non, c'est pas ça que je veux faire. Bien sûr, l'information m'intéresse, bien sûr, la transmission de l'information m'intéresse, mais le traitement de l'information tel qu'il est enseigné dans les écoles me semblait trop restrictif. J'avais envie de quelque chose de moins didactique et plus personnel.
Très bien. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur votre roman avec un titre très évocateur, Le temps d'apprendre à vivre?
Le temps d'apprendre à vivre, c'est vrai que c'est tiré du roman d'Aragon, c'est tiré de la poésie d'Aragon, Le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard. Il n'y a pas d'amour heureux. Donc c'était reprendre cet auteur qui a tellement compté dans ma famille, pour moi, pour la tante à qui je rends hommage dans ce roman et dont j'ai compris qu'elle était comme moi, complètement imprimée, engagée dans la vie et avec la conscience permanente que il faut s'atteler à vivre le mieux possible tout ce qu'on a à vivre, parce que il est souvent bien plus tard qu'on ne le pense. Voilà, donc c'était un titre fort, et c'est vrai que je suis hyper contente d'être là pour l'envie de vivre, parce que c'est exactement je vous jure que tous les matins ou tous les soirs en me couchant, enfin tous les jours, je pense à ma joie d'être en vie, d'être sur Terre et de vivre ce que je dois vivre. Mais je fais en sorte de vivre ce que je peux vivre. Et c'est ça le plus important. C'était ça aussi ce roman. C'était il ne faut pas passer à côté de sa propre vie.
Du coup, vous y parlez de la thématique du secret qui se transmet dans votre famille et dans les femmes de votre famille. Mais si vous considérez qu'il faut apprendre à vivre, est-ce que vous pensez qu'il faut apprendre à être une femme, comme le dit Simone de Beauvoir dans Le deuxième sexe?
Oui, et on n'a pas fini d'apprendre à être une femme. Je trouve que c'est très dur d'être une femme, encore maintenant, encore à mon âge, avec l'âge qui passe et qui fait que ça transforme aussi. On a le bénéfice de ne plus avoir que des rapports de séduction, ce qui est quand même très chouette. Moi, je trouve ça très dur, cette façon qu'on a de nous imposer la séduction avant tout. Je ne comprends pas pourquoi. Et donc en vieillissant, comme c'est une obsession, on perd peut-être un peu de notre séduction. J'en sais rien. En tout cas, ça permet de cultiver plein d'autres choses. Et donc j'ai oublié le sens de la question, mais si je l'ai pas complètement oublié, c'était effectivement apprendre à être une femme, apprendre à dépasser des secrets, apprendre à se dire les choses qui dérangent. Là, ce que je viens de dire est un peu dérangeant, mais c'est pas grave, parce que c'est en disant ce qui dérange et en dépassant les tabous qu'on arrive à faire bouger la société. Si on garde les secrets dans une famille ou dans la société ou par rapport à soi, en fait je trouve que c'est dur d'être dans la joie de vivre, c'est dur d'être dans la vie, c'est dur d'être dans le dépassement de soi. Alors c'est vrai que je dérange souvent en allant parler aux gens, en dénonçant, effectivement avec ce roman, ces femmes qui sont dans des secrets, en peut-être révélant des choses que je n'aurais peut-être pas eu à dire, je me dis que je rends service, au moins si ce n'est pas à ma progéniture, à toutes les femmes qui liront ce roman et qui se diront qu'elles ont peut-être intérêt à parler.
Et pour vous, qu'est-ce que ça signifie être une femme, en fait, maintenant, à l'heure actuelle? Parce que la définition change, avec les mœurs qui changent, forcément.
Est-ce que c'est être une femme selon mon point de vue?
Oui, selon votre point de vue, oui.
Qu'est-ce que ça veut dire être une femme? Waouh. J'ai du mal à répondre à cette question parce que je ne me suis jamais envisagée comme telle. C'est par les regards qu'on m'a rendus de ce que je suis que j'ai compris que j'étais une femme. C'est-à-dire que je ne suis pas un homme. Mais qu'est-ce que c'est être une femme ? J'aimerais en tout cas que ça puisse être, être un être vivant, libre. Je pense aux femmes iraniennes quand je dis ça, aux femmes afghanes, libre de ses gestes, de ses mouvements, de sa pensée, et donc que la définition soit presque uniquement hormonale et pas genrée. Voilà. Et ça, c'est vrai, parce que c'est intéressant votre question, je ne me suis jamais posé cette question en tant que telle pour moi. C'est-à-dire que c'est vrai que j'ai toujours été dérangée par le fait qu'on me renvoie à ce que je suis, d'être sexuée, donc effectivement de séduction, d'être de séduction, etc. Je trouve ça tout à fait dérangeant. Et j'aime bien me dire que j'avance sans qu'on me renvoie tout le temps à ça, au fait que peut-être, alors on ne me l'a pas trop fait, donc j'ai de la chance, mais que je ne sois pas libre parce que j'ai des enfants, que je ne sais pas quoi, que je sois fatiguée, voilà, je ne supporte pas. Et donc tout ce que je le fais comme un être vivant. Et si par malheur quelqu'un me renvoyait à la figure que je ne puisse pas faire ceci ou cela parce que je suis une femme, je crois que je me mettrais très en colère.
Du coup, si vous aviez un message à faire passer aux jeunes filles actuellement qui sont en train de se construire et d'essayer de trouver cette place de femme, parce que c'est pas facile de trouver sa place,
non, c'est vrai.
Qu'est-ce que vous leur diriez ?
Bah, je leur dirais, comme je dis à ma fille, sois surtout toi-même. Ne te laisse pas enfermer par le regard qu'on porte sur toi. Le regard, ça enferme. Essaye d'être là où tu te sens le mieux. Et quelles que soient tes convictions, moi j'y adhérerai, et je pense que les gens y adhéreront dès lors que ce sera le plus en phase et en verticalité avec ton être. Mais je, franchement, j'ai beaucoup de chance parce que ma fille arrive à suivre cette route-là, et je trouve que le plus difficile, c'est les autres. Les autres qui, lorsque vous n'êtes pas comme eux, vous regardent en se demandant pourquoi vous n'êtes pas comme eux. Et quand vous décidez, presque comme un fait de guerre, de ne pas être comme les autres, c'est déjà le mauvais chemin, parce que c'est par opposition et non pas par être. Et je crois que c'est un travail d'une vie d'être. Donc je dirais, cultive ton jardin, continue de lire, continue d'écouter, continue d'échanger, continue d'aller à des festivals comme celui-ci, parce que c'est en écoutant les autres qu'on arrive à se percevoir le mieux, paradoxalement. C'est bien une histoire d'écoute et non pas de regard. Et ça, c'est hyper important. C'est vraiment, se contenter du regard, c'est perdre une partie de soi-même. L'écoute apporte beaucoup plus de choses. C'est pour ça que j'adore tant la radio.
Donc, dans votre précédent roman, vous avez évoqué des moments particulièrement traumatisants d'une vie. Et merci vraiment de l'avoir fait, parce que justement d'en parler, et parce que beaucoup de personnes finalement vivent des histoires similaires. Comment on va retrouver la force justement d'en parler ?
Ouais, d'abord je suis hyper fière parce que je l'écris avant la vague MeToo, et c'était plus difficile, on ne se rend pas compte, mais avant qu'il y ait cette vague MeToo, ce genre de récit dérangeait parce que dire qu'on a été abîmé, puisque les gens placent ça du côté de la salissure, ce n'en est pas une, mais c'est comme ça que c'est perçu. Donc forcément, c'était m'exposer dans un regard, encore une fois, qui était potentiellement doublement destructeur. Pourquoi j'ai eu cette force ? Ben, c'est toujours cette histoire de liberté et de suivre son chemin. Je pense que c'est mon destin, au fond, c'est de me dire que je ne me laisserai pas enfermer dans quoi que ce soit, ni dans mon état de femme, ni dans mon état de victime. J'ai été abusée, mais ce livre, c'était pour dire à toutes les femmes, et Dieu sait s'il y en a, et il y a des hommes aussi, que c'était pas ça ne nous définissait pas, et qu'on pouvait largement s'en sortir avec la blessure. Mais pour s'en sortir, il faut dire la blessure, il faut réussir à nommer et à si ce n'est à se confronter à son bourreau, je trouve ça très difficile, au moins verbaliser la douleur que l'on porte. Et une fois qu'on l'a verbalisé, ne pas s'enfermer dans la victimisation, ce qui est encore un autre sujet pour moi, et transcender la douleur et devenir quelqu'un d'autre. Donc peut-être, par rapport à la question d'être femme, devenir en tout cas qui on est. Et s'assumer à l'endroit de non, je ne suis plus un être abîmé, mais j'ai la cicatrice, elle est visible. Enfin, on sait bien que toutes les personnes qui ont été gravement blessées ont la cicatrice sur la peau. Mais ça ne nous définit pas. Voilà.
Merci pour cette réponse, vraiment. Le thème de ce salon, donc, c'est l'envie de vivre. Est-ce que pour vous, ça aboutit à l'envie de créer? Ou est-ce que c'est l'envie de créer qui vous donne cette envie de vivre?
Ah, c'est une bonne question. C'est les deux, mon capitaine. Parce que là, quand j'écoutais à l'instant Eric Orsena, je me suis dit, mais vite, il faut que je me remette à écrire. Vite. Et à la fois, c'est par la force, effectivement, de la création que la prise de conscience de l'être. Et ça, tiens, j'ai noté la phrase, je vais vous la lire, parce que je me suis dit ça. Moi, maintenant, j'ai changé de métier, je suis conseillère culture. Et en fait, je me suis dit, c'est exactement ça. La culture, c'est l'ambition d'être plus que soi-même. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que, par rapport à votre question, c'est parce que j'écoute, c'est parce que je lis, que je me vis. Mais c'est parce que je compose et parce que j'écris que j'arrive à être encore plus que moi-même. Donc que je me dépasse à chaque fois. Mais franchement, déjà, rien que de se nourrir de ce que les autres nous offrent, on a fait un pas. On se transcende soi-même, forcément. Et je pense qu'effectivement, votre question est bonne, parce que je pense qu'en fait, c'est à portée de tous d'être créateur. Tous. Dès lors qu'on accepte d'être transcendé par quelqu'un d'autre.
Est-ce que vous pensez que nous, la nouvelle génération, on peut rester optimiste quant à notre avenir, quand on voit tous les dysfonctionnements de notre monde actuel?
Alors là, franchement, j'y pense tous les jours. Alors là, franchement, s'il y a une chose à laquelle je pense, c'est à vous. Et c'est la seule raison de mon engagement, en fait. J'ai changé de vie, je me suis engagée en politique pour ça, en me disant qu'on ne pouvait pas s'entendre dire à juste titre que le monde a été abîmé par nous et nos parents, et juste rester inerte devant ça. Donc je pense que c'est très dur, et à la fois vous me surprenez énormément. Enfin, je veux dire, la génération vous devez avoir dans les 20 ans, je suis époustouflée de la maturité, l'intelligence et de la compréhension presque trop grande du monde. Donc je me dis, en fait, c'est vous qui allez nous apprendre à vivre, justement, le temps d'apprendre à vivre, c'est vous qui allez nous apprendre à vivre. Et ça, j'en suis sûre, parce que nous, on écoute Eric Orsena, on se dit, waouh, quelle sagesse. Mais lui, il a compris qu'il fallait se tourner vers la jeunesse, parce que s'il n'y a que la jeunesse qui nous apprendra à vivre. Le sage qui pense qu'il est sachant a fait fausse route. Donc, vous concernant, la seule chose que je peux dire, c'est dur, mais on va travailler ensemble, on va se donner la main et on va voir ce qu'on peut faire ensemble. Et nous, on a impérieusement besoin de vous écouter. Impérieusement. Voilà. La seule chose que je pense qu'on pourra vous apporter, c'est notre expérience. Mais on a perdu le sens de la fraternité, on a perdu le sens du collectif. On a perdu le sens de l'altérité. Il y a tout ça à recréer. Et ben c'est ensemble.
Très bien. Merci beaucoup.
En voilà une série d'invités très différents que nous avons pu rencontrer et vous présenter. Un ancien ministre, un sportif de haut niveau, un auteur de l'Académie française et une journaliste. Ils ne semblent pas forcément avoir grand-chose en rapport à la base, et pourtant, chacun apporte un élément, justement concernant cette envie de vivre, d'évoluer et de se dépasser pour un avenir commun et meilleur pour tous. Chacun, à son échelle et à sa façon, propose des pistes pour répondre aux questions sociétales qui se posent actuellement, que ce soit politiquement, écologiquement ou même humainement. Ces hommes et femmes qui sont venus pour ce salon, et ils étaient nombreux, ont tous accepté de venir bénévolement pour défendre une cause qui nous préoccupe tous, puisqu'au final, notre avenir est commun. Ils se sont également mis à la disposition du plus grand nombre par des dédicaces et des rencontres avec le public présent au Palais Beaumont ce week-end. Cet événement est également l'occasion pour les plus petits auteurs de se faire connaître en vendant leurs livres. C'est pour cela que l'équipe de Campus Zoom vous conseille fortement de vous y rendre l'année prochaine et entendre parler de thèmes que l'on n'aborde pas nécessairement souvent et ainsi ouvrir votre esprit à de nouvelles réflexions. Et puis, le point bonus habituel, c'est que cet événement est entièrement gratuit, donc c'est plutôt cool d'en profiter.
Nous tenons à remercier les organisateurs du salon pour leur accueil et leur présence pour nous aider dans les interviews. Également Tony Stanguet, Bernard Cazeneuve, Eric Orsena et Elsa Boublil pour avoir pris le temps de nous rencontrer et de répondre à nos questions, malgré des timings parfois très serrés. Merci à tous de nous avoir écoutés. Nous espérons que vous avez passé un bon moment.
En attendant de vous retrouver, vous pouvez réécouter le podcast sur radiocampuspo.fr et vous pouvez suivre Radio Campus Po et Campus Max sur Instagram. Bonne soirée à tous et bon week-end. Vous êtes sur Radio Campus Po.
Retrouvez Campus Zoom,
l'émission qui fait le zoom sur le local.